Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au traitement médiatique de la Covid. À l'ordre du jour ce soir, les médias ont-ils du mal avec la science? Dans le cadre de la journée spéciale de France Culture, ce que le Covid fait à la science, que vous pouvez retrouver sur le site franceculture.fr, le temps du débat se demande ce soir comment l'information scientifique a pu être bouleversé par l'arrivée du virus. D'un secteur généralement consacré aux découvertes, il a dû se muer ce secteur en fournisseur de doutes, en mettant l'accent sur les incertitudes liées à la connaissance imparfaite du fonctionnement du coronavirus. L'angoisse née de son irruption a fait croître la part des informations scientifiques dans les journaux télévisés généralistes, par exemple, et contraint des journalistes non spécialisés à une formation rapide, voire parfois trop rapide, en ce domaine. Mais l'arrivée de ce virus a également donné lieu à des combats d'opinion au grand jour dans un domaine, la science, où les validations se font habituellement entre pairs et dans des revues spécialisées. Nous allons en parler avec nos trois invités, avec vous Issyama, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste scientifique indépendant, spécialisé en environnement et sciences du vivant, et vous êtes président de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques français. Avec nous également Antoine Flao, vous êtes en duplex depuis la Suisse, où vous enseignez, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Genève, directeur de l'Institut de santé globale à la Faculté de médecine de l'Université de Genève, et vous êtes déjà intervenu assez souvent dans les médias et en particulier dans le temps du débat. Et avec nous, Céline Pigalle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la rédaction de BFM Télé.
Au cours de cette crise, il y avait une opportunité fantastique pour que les scientifiques puissent effectivement montrer aussi bien au gouvernement qu'à la population l'apport qu'ils pouvaient donner. Et une fois de plus, c'est cette cacophonie à laquelle on a assisté, et je dois le dire, malheureusement entretenue par certains médias. Hein. Il y a, enfin, vous êtes journaliste, vous avez une éthique, vous avez une déontologie. Comme moi, d'ailleurs, vous faites de la vérification des faits. Moi, je passe ma vie à vérifier les faits, c'est votre métier aussi. Heureusement, la grande majorité des médias font leur métier très bien, mais il y en a qui, pour attirer du sensationnel, pour etc., ont fait parler des gens qui avaient des positions contradictoires. Donc moi, j'ai aucun problème sur le débat scientifique, mais le débat scientifique, on peut l'avoir dans les revues spécialisées où vous publiez votre article, et puis les personnes qui sont pas d'accord avec vous publient des lettres en retour, et on a ces échanges de lettres. On l'a toujours eu, ce débat scientifique, mais on le fait pas dans les médias avec des positions qui sont quand même complètement, j'ai envie de dire, décalées par rapport à ce qu'on, le savoir scientifique, c'est aujourd'hui.
Voilà, c'était il y a 3 jours sur France Inter. Il y a 2 jours, c'était lundi matin. Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique. Alors, on ne sait quel média il vise, on ne sait quel est le personnage ou les personnages dont il parle, mais enfin, on pourrait peut-être les deviner en l'occurrence. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que d'habitude, eh bien, les scientifiques auraient pu être très heureux de la montée en puissance d'une question scientifique dans le débat public, et que là, effectivement, certains médias, dit-il, ont voulu faire du débat contradictoire, ce qui ne correspond pas à la réalité du travail scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes journaliste scientifique et président de l'Association des journalistes scientifiques français, Yves Siama?
Je pense que déjà, il faut faire le constat que les médias ont un petit peu connu un fiasco avec cette pandémie, parce que nous sommes face à une opinion qui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Fontanet, qui est déboussolée, qui ne sait plus qui croire.
Est-ce que c'est la faute aux médias? Est-ce que c'est la faute aux politiques? Est-ce que c'est la faute aux scientifiques eux-mêmes qui se sont déchirés publiquement devant les caméras? Et on peut pas reprocher aux médias d'être en train d'arbitrer ou de rendre compte de ce qui est en train de se passer entre scientifiques.
Je pense que c'est la faute des trois, à des niveaux différents. Je pense en particulier quand même que le corps médical n'a pas réussi, parce que les médias sont fautifs, certes, mais ils étaient pas expérimentés, ils ont débarqué dans une situation sans recul, et l'institution médicale n'a pas été capable de produire un discours homogène, et en particulier des instances comme l'Ordre des médecins, comme l'Académie de médecine,
comme l'OMS soi-même.
Mais je parlais au niveau français, parce que c'est au niveau français.
Oui, mais c'est important aussi avec la relation avec l'OMS.
Absolument. Mais en tout cas, il n'y a pas eu une voix de la science qui s'est levée et qui aurait permis vraiment aux journalistes ensuite de s'appuyer dessus.
Céline Pigalle, est-ce que vous avez eu du mal avec la science, puisque c'est le titre de notre émission à BFM Télé?
Moi, je voudrais répondre à la précédente question. C'est un peu la faute à la pandémie d'abord. Parce que quand elle surgit et qu'elle va aussi vite, il faut apporter des réponses en temps réel. Alors nous, on est habitué à ça et on est habitué à se faire taper sur les doigts pour cette raison, parce qu'on essaie de fournir de l'information en temps réel. Et la cacophonie à laquelle on a été confronté, elle était liée au fait que personne n'était organisé. Les scientifiques, on va dire, il y a de grandes institutions, mais des grandes institutions qu'on a sollicitées dans l'instant. Ce que dit Monsieur Fontanet, il dit les scientifiques, ils auraient dû se parler par revue interposée, mais il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps d'écrire les articles, de s'en parler. Les journalistes sollicitaient les scientifiques pour maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a quand même cette difficulté spécifique. Après, pour vous répondre, comment est-ce que nous, on a fait face au point de vue scientifique qui...
Vous aviez combien de spécialistes scientifiques?
Voilà, alors c'est très simple. On avait une spécialiste santé et un médecin conseil. Entre le moment où ça a démarré et au bout d'un mois, il y avait dans le service santé, qui ne comptait donc qu'une personne au préalable, 7 personnes. Par définition, les 6 supplémentaires. Alors, heureusement, il y avait des gens qui avaient déjà fait, qui avaient déjà un peu suivi les questions de santé qu'on a rapatriées, mais il y en avait bien 4 qui ont démarré de zéro.
Antoine Flahaut, vu de là où vous êtes, et c'est assez paisible d'être depuis Genève, non pas parce que c'est la Suisse, mais parce que d'une certaine façon, vous étiez un peu à l'écart de ce débat des scientifiques en France. Qu'est-ce que vous avez vu se dérouler en France qui ne se passait pas, par exemple, en Suisse, autour de cette question de l'apprentissage rapide, trop rapide parfois, de la connaissance de ce virus par les médias et de leur propagation vers le grand public?
Écoutez, j'aime bien votre question parce que, en effet, j'ai personnellement été exposé à la fois, je dirais, aux médias suisses et aux médias français. Les médias suisses ont l'habitude de davantage écouter, davantage prendre du temps, peut-être que les médias français. Je parle pas de France Culture où vous prenez du temps et vous écoutez et laissez parler les gens, mais souvent les chaînes, en particulier les chaînes d'information, sont plus pressées par le temps et aiment, en particulier en France, les débats contradictoires, les débats qui entraînent des joutes qui sont par ailleurs assez sympathiques, assez vivantes, mais qui évidemment ont tendance un peu à montrer les clivages plutôt que les consensus. Moi, mon impression générale, je partage assez ce qu'a dit Madame Pigalle, c'est-à-dire que je trouve plutôt que le débat a été de bonne qualité dans les médias. Je trouve que les médias ont fait énormément d'efforts pour élever leur propre niveau et, de ce fait, le niveau de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs sur le plan scientifique. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Je suis dans ce domaine des maladies émergentes transmissibles depuis toute ma carrière, hein, depuis très longtemps. Et j'ai été dans l'impossibilité de communiquer un certain nombre de concepts un peu théoriques, qui sont ceux que l'on voit aujourd'hui, mais tous les jours, comme par exemple le taux de reproduction, l'immunité collective. Ce type de notions étaient des notions qui ne passait pas, c'est-à-dire que je me faisais parfois reprendre par un certain nombre de médias avant le Covid, hein, qui me disaient non, on ne va pas parler de taux de reproduction, expliquez-moi ça, on va pas, ça n'intéressera personne. Donc il n'y avait pas d'effort jusqu'à présent pour essayer de comprendre les différentes notions, de les expliquer et de laisser les gens en parler. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de parler de ce taux de reproduction.
C'est-à-dire que s'il y avait encore des bistrots à Paris ou en France, eh bien effectivement, on pourrait penser que tout le monde sait ce qu'est le taux R, effectivement, de reproduction, et que comme on est 60 millions de sélectionneurs de foot, eh bien on est 60 millions de spécialistes de la Covid et de la façon dont elle se transmet. C'est vrai que c'est assez étrange. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Sciamma, justement, de cela?
Moi, je suis d'accord sur le fait qu'au début, il y avait vraiment une période où...
Le flottement.
tout était nouveau et flottant. Mais là, ça fait quand même 6 mois et on peut discuter aussi du traitement médiatique, de comment il a évolué. Je suis d'accord qu'il y a eu une courbe d'apprentissage. mais finalement, ce qu'on constate encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une espèce de covido-scepticisme qui se répand dans la population française et qui est un peu l'équivalent du climato-scepticisme dans un autre domaine.
Sur lequel vous avez travaillé, vous.
Sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui en fait une espèce de déni de science fait sur un ton belliqueux et agressif contre la communauté scientifique. Et là, je trouve que effectivement, nous, les médias, il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on a rendu ça possible.
Oui. Eh bien, peut-être, par exemple, c'était chez vous le 30 avril, l'entretien d'Apolline de Malherbe avec Didier Raoult.
Il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous, maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis.
Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision.
Oui.
Ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire.
Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire.
Non, mais on est là.
Si vous voulez, c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, vous le recommandiez ou pas.
Mais alors, en France,
on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM. C'est-à-dire que des médicaments qui sont vendus, on a vendu à partir du moment où c'est fait, ça a été vendu un nombre de traitements absolument considérable ville, et encore plus à Paris qu'à Marseille.
Qu'est-ce qui a fait que les médias ont été fascinés, par exemple, par ce type de déclaration, et BFM en particulier, Céline Pigalle ?
Il faut faire le récit de l'apparition du personnage Didier Raoult. D'abord, il a commencé à dire, j'ai trouvé une étude en Chine qui dit que cette fameuse alliance de ces deux médicaments fonctionne. Et moi, la première fois où j'ai rencontré Olivier Véran au tout début de cette crise dans la loge avant l'émission, nous lui avons posé la question, ce Didier Raoult, c'est sérieux ou pas ? Il lui dit... C'est un médecin sérieux. Je lui ai dit, très bien, faites une étude, démontrez-nous la véracité de ce que vous dites, prouvez-le scientifiquement, et ensuite, on en rediscutera. La difficulté, c'est que Didier Raoult est devenu le personnage qu'il est devenu, qu'on a depuis dit à de multiples reprises, qu'on ne cesse de dire sur les antennes qu'il n'a jamais réussi à prouver ce qu'il avance, et que néanmoins, il est devenu, en effet, la tête de pont de ceux qui ne croient pas aux explications officielles et aux explications même gouvernementales sur le Covid.
Antoine Flahaut, qu'est-ce qu'on peut dire justement, parce que c'est aussi peut-être une particularité du débat français, que d'avoir un personnage comme celui-ci. Je ne sais pas, vous qui êtes spécialiste en épidémiologie, qui suivez effectivement toutes les questions dans tous les pays, puisque en vous suivant sur Twitter, on sait ce qui se passe justement de reproduction, du taux de reproduction chaque jour un peu partout. Vous avez vu d'autres phénomènes de ce type-là dans d'autres pays que chez nous ?
Alors, dans presque tous les pays, il y a des personnes qui ont émergé avec la crise sur le plan médiatique et qui sont des scientifiques, le plus souvent d'assez haut niveau, et qui ont des profils différents. Vous avez Anders Tegnell en Suède, qui... très différent de Didier Raoult, à 80% d'opinion favorable pour la politique qu'il propose et présente. C'est pas un politique lui-même, hein, puisque il n'y a pas d'acte politique.
C'est un directeur d'agence de santé, en
l'occurrence. Responsabilité. Oui, c'est un directeur d'agence de santé et qui recommande de façon scientifique, finalement, à la population de s'auto-confiner, puisqu'il n'y a pas de décision politique de confinement là. Mais c'est une approche très, très originale, très particulière, très décriée par beaucoup de ses confrères aussi. Et il est un personnage aussi très, très emblématique et très charismatique. Il y a Christian Drosten qui est... tous ces gens m'en voudraient probablement que je dise que ce sont des sortes de Didier Raoult de leur propre pays, parce que je pense qu'ils s'assimilent pas du tout à ce personnage. Mais il est parce que la grande différence, les deux,
c'est le conseiller de l'Allemagne, en l'occurrence Christian Drosten, c'est ça.
C'est le conseiller de l'Allemagne, excusez-moi, à Berlin. Il est virologue. Les deux personnes, Didier Raoult ou Christian Drosten, ont une très grande réputation scientifique, attestée, je dirais, par des critères objectifs de publication. Mais Christian Drosten a comme, je dirais, obsession de ne pas cliver sa communauté de pères, mais de l'associer à ses intuitions et à ses propositions, qui sont assez visionnaire, c'est-à-dire que il connaît très bien le coronavirus, beaucoup mieux d'ailleurs que Didier Raoult au départ. Hein. C'est un spécialiste du coronavirus, Christian Drosten, et il voit ce qui se passe de part et d'autre, mais il n'est pas obnubilé par la Chine. Il regarde plutôt ce qui se passe à Singapour ou en Corée, où l'on teste énormément, où l'on trace, on recherche les contacts, et où on isole, où on met en quarantaine. Tout ce que nous connaissons bien maintenant aujourd'hui, et qui d'ailleurs que la France a beaucoup déployé cet été, et qui était absent au mois de mars. Ben, figurez-vous, si vous étudiez le discours de Didier Raoult, il le préconisait. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'il a assez rapidement proposées à la région de Marseille, d'ailleurs, qui est la région PACA,
où on a beaucoup testé, effectivement,
que le reste de la France. Mais il n'a pas cherché à avoir l'assentiment de ses collègues, à essayer de convaincre. Il a plutôt suscité des anticorps de part et d'autre, presque des allergies, si vous me permettez l'expression. Et au lieu de vouloir essayer d'avoir l'assentiment beaucoup plus difficile à obtenir en Allemagne, qui est une Allemagne fédérale, où chaque Länder doit être convaincu et peut appliquer une politique très 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 différente, un peu comme dans nos cantons suisses, Christian Drosten a vraiment voulu essayer de convaincre. Mmh. Et il l'a réussi très très bien. Je pense que c'est des personnages différents. Il y a Fauci, dont on pourrait parler aussi, Madoussal en Afrique.
Yves Siama.
Moi, ce qui me frappe, c'est que Didier Raoult est à l'infectiologie ce que Claude Allègre est à la climatologie. C'est-à-dire que c'est un négateur du consensus scientifique.
C'est bon, on va avoir beaucoup de tweets. Il va y avoir des réactions sur les réseaux.
J'assumerai, mais ce que je veux dire, c'est que non seulement il nie le consensus scientifique, mais il attaque la communauté. Je me souviens que Claude Allègre disait que les climatologues avaient inventé le réchauffement climatique pour avoir des financements. Et de son côté, Didier Raoult dit pratiquement que les scientifiques inventent des choses parce qu'ils sont payés par les laboratoires. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce que, en fait, ça effrite la confiance du public dans l'institution médicale dans son ensemble. Et tout d'un coup, il devient légitime pour n'importe qui d'exprimer n'importe quoi.
Vous écoutez Le Temps du Débat. Covid, les médias ont-ils du mal avec la science? Avec Yves Siama, qu'on vient d'entendre, Antoine Flahau, qui est au téléphone avec nous depuis la Suisse, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM Télé.
France Culture. Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait de Music to Watch, Space Girls, by Leonard Nimoy. C'est un clin d'œil à la méthode scientifique, l'émission de Nicolas Martin, qui a été sur le pont avec toute son équipe pendant toute cette crise et qui continue à l'être, d'ailleurs, avec les radiographies du coronavirus. C'est le générique de cette émission, chaque jour, à 16h sur France Culture. Alors, une des questions, tout de même, c'est que c'est bien de dire qu'on se bagarre entre scientifiques, mais qu'en font les médiateurs, c'est-à-dire qu'en font les journalistes de cette bagarre, cette mise en scène justement du conflit, est-ce qu'elle est légitime selon vous, Céline Pigalle, dans un domaine qui normalement, on l'a dit au début avec Arnaud Fontanet, c'est la discussion entre pairs conduit à une position scientifique pour un moment donné qui est la connaissance scientifique sur le sujet, et normalement on n'y revient pas.
Au fond, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut avoir des débats sur le Covid?
C'est cela.
Est-ce que ça peut être l'objet d'une discussion pour contre? Ce qui est compliqué, c'est que vous avez raison de dire que, en théorie, il y a des faits scientifiques avérés et qu'on n'a pas à se battre à ce sujet. La difficulté, c'est que la science a malgré tout évolué au cours de cette épidémie. Mmh. Et qu'on a dit, par exemple, un temps que les enfants étaient très contaminants pour ensuite s'apercevoir que vraisemblablement, ça n'était pas le cas, en tout cas entre les enfants et les adultes. Donc, les choses ont bougé.
On n'en est pas sûr parce que le docteur Fauci dit pas la même chose que les experts français, par exemple.
Donc, vous voyez qu'il y a quand même aussi des choses qui sont mouvantes. Il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas que la science, il y a aussi ce qu'on en fait. Et les débats ont aussi porté là-dessus. Ce qu'on appelle aujourd'hui les rassuristes, on peut les condamner.
C'est un terme tout nouveau.
C'est un terme tout nouveau. Il se place à la fois sur le terrain de la science et sur ce terrain-là, d'après tout ce que j'ai pu lire et qui paraît assez incontestable, ils exagèrent dans leur volonté de nous rassurer. Mais en contrepartie, il y a un débat de société, un débat politique. Une fois qu'on a les données scientifiques, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Et c'est vrai que ces choses-là se sont mélangées, et notamment les différents médecins qui sont venus sur nos plateaux, n'ont pas interprété, y compris quand ils étaient d'accord sur les faits, ils n'ont pas interprété de la même manière ce qu'il fallait prendre comme décision ensuite.
Et Yves Siama, puis ensuite Antoine Faou.
Écoutez, aujourd'hui, je dirais qu'il y a peut-être 1% des virologues, des infectiologues et des épidémiologues qui sont d'accord avec les professeurs Raoult, Toussaint et Perronne, qui sont donc ce que vous qualifiez de rassuristes et qui courent les plateaux actuellement. Et je pense que c'est vraiment là qu'il y a besoin de journalistes scientifiques qui ont un peu une idée de ce qu'il y a dans la littérature et qui sont capables de fournir un petit peu de recul aux médias sur non pas ce que disent les grands noms, mais ce que disent la grande masse des chercheurs.
Et avec du temps aussi, parce que pour lire toutes ces études qui arrivent, et ces pré-print, comme on appelle ça, ces études qui arrivent, etc. etc.
Mais il faut avoir aussi les bons interlocuteurs, il faut être capable d'en changer quand ils se discréditent. Mmh. Et moi, je suis frappé du fait que les médias français ont besoin d'opérer un réarmement scientifique. C'est-à-dire que si vous regardez même les médias qui ont le plus de journalistes scientifiques en leur sein, je pense par exemple aux pages Science du Monde ou du Figaro, ils en ont peut-être 10 sur des rédactions où il y a 400 personnes. Moi, je pense que dans la société du 21e siècle, c'est pas possible qu'un grand média n'ait pas de service science, et c'est pas possible qu'on reste, je sais pas, en dessous de 5% de journalistes qui soient capables de traiter les questions scientifiques. C'est très important.
Antoine Flahaut.
Moi, je pense que les médias sont le reflet de la population. C'est-à-dire que ils sont le reflet des débats actuels. Et ils essayent, ils font leur métier au mieux qu'ils peuvent pour restituer les débats d'idées. Mais pour reprendre l'histoire des rassuristes ou des alarmistes, en réalité, ces termes ont été créés par rapport à quelque chose qui n'est pas véritablement du domaine de la science, qui est de la prévision, de la prédiction même. C'est-à-dire que, vous savez, nous, à l'Université de Genève, avec les deux écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich, on a mis très très tôt dans la pandémie en place un programme, vous en parliez tout à l'heure, de prévision épidémiologique à 7 jours. En fait, nos modèles, évidemment, courent beaucoup plus, mais on se réfrène, on ne donne pas, vous ne verrez jamais une prévision qui dépasse 7 jours. Mmh. Parce que nous pensons, exactement un peu comme pour la météorologie.
Hein, c'est ça, c'est un peu la même chose.
Oui, on n'est pas capable de prédire exactement s'il y aura une averse de neige à Paris le 15 janvier, même si c'est pas complètement absurde de penser. Et voilà, ceux qui vont être alarmistes vont dire qu'il y aura une averse de neige, et ceux qui seront rassuristes vous diront que non, pas du tout, il y aura un réchauffement. Donc, je pense quelque part qu'on n'est pas capable, et que à partir de là, on n'est plus dans la science. C'est-à-dire que c'est pas plus raisonnable d'être rassuriste ou d'être catastrophiste. Ce qui est surtout important pour les politiques, c'est de se préparer et de préparer leur pays à affronter des scénarios qui sont plutôt des scénarios pessimistes. C'est-à-dire que les scénarios optimistes qui sont poussés par les rassuristes n'ont pas probablement plus ou moins de chances de se produire que les scénarios des alarmistes, mais finalement, il vaut plutôt mieux écouter les alarmistes, parce que être prêt contre des scénarios négatifs ou catastrophes ne sera pas beaucoup reproché. Vous savez, on avait reproché un petit peu à Roselyne Bachelot en France d'avoir trop
alarmé
la pandémie, alarmé et d'ailleurs fait des dépenses de mais en réalité, personne ne lui a vraiment reproché. En tout cas, dans le milieu politique, elle a eu raison. Politiquement, elle a eu raison d'armer son pays au cas où, parce que finalement, ça aurait pu mal se passer, comme on voit aujourd'hui avec un autre virus. Bon, il se trouve que ça s'est bien passé et tout le monde, en réalité, en est très heureux. Donc je pense que au jour d'aujourd'hui, ce débat, il est naturellement exprimé par les médias. C'est normal qu'ils donnent la parole aux uns et aux autres, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de science dans tout cela.
Oui, parce que cela, c'est autre chose, c'est d'une autre nature, dites-vous. Céline Pigalle, vous dites, on était un dans le service santé à BFM Télé, et maintenant ils sont 7 ou 8 pour pouvoir couvrir cette question de la santé en temps de coronavirus. Mais il va falloir les former de façon plus permanente, peut-être à un moment ou à un autre. Il va falloir peut-être passer par des formations plus, disons, sérieuses, et pas simplement sur le tas, parce que, simplement, comme le disait à l'instant Yves Siama, il y a cette dimension de, on s'installe dans un nouveau monde et ce nouveau monde exigera des connaissances scientifiques de la part des
gens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en effet, c'est une question qui se pose de la même manière sur le sujet du climat. Effectivement, c'est-à-dire que on le voit bien, les journalistes qui à brûle pour point doivent se pencher. C'est valable d'ailleurs aussi sur les logiques d'intempéries quand il faut expliquer des phénomènes naturels. Enfin voilà, sur tous ces sujets-là, vous avez raison de dire qu'il va falloir s'équiper.
Oui, Yves Siama, est-ce que il y a des formations, formations d'origine? Je crois qu'il y a une formation de journaliste scientifique dans ma bonne école de Lille, là où j'ai commencé il y a très longtemps. Mais depuis, il y a d'autres formations qui se sont mises en place. Et surtout une formation permanente qui permettrait justement à des généralistes qui ne sont pas spécialistes de sciences d'avoir quelques données scientifiques au cas où.
Je pense que là, il y a une espèce de prise de conscience, à la fois dans les médias et peut-être dans les écoles de journalisme, qu'on a trop négligé ces questions. Et j'ai vu beaucoup de mes collègues être embauchés très récemment. J'en ai vu d'autres qui trouvaient des piges dans des domaines scientifiques à des endroits où il n'y en avait pas d'habitude. Et donc, je sens un frémissement, moi, dans la profession. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça et que ça ne doit surtout pas être un feu de paille. Il faut faire un vrai tournant culturel. Et je tiens à dire qu'il y a quelque chose de profondément dans les médias français. Les gens qui dirigent les médias français sont des gens qui ont fait généralement des études de lettres. C'est pas Madame Pigalle qui me contredira. Elle a fait Hippocagne et Sciences Po. Et il y a énormément de gens qui ont ce profil-là.
On est assez nombreux dans le domaine,
voilà,
effectivement.
Voilà. Et c'est très bien. C'est des très bonnes formations, mais il y a une homogénéité, presque une monotonie des sommets des médias français qu'il est important de renouveler. Et je pense que c'est le moment maintenant d'une prise de conscience. Et moi, j'en appelle à tous les médias et aux écoles de journalisme de... Parce qu'il y aura aussi le climat, il y a l'énergie, il y a la 5G, il y a les pesticides, il y a tous ces sujets qui sont absolument au cœur de notre avenir et du 21e siècle. Et il faudra des gens compétents pour les traiter.
Céline Pigalle.
Cela étant, il y a une difficulté. Monsieur Flau disait tout à l'heure, le journalisme, il s'inscrit dans une société. Et l'immense difficulté qui est la nôtre, c'est aussi que cette société est très rétive à toutes sortes de hiérarchies. Et quand vous dites la vérité scientifique est celle-là, ça suscite dans une partie de la population un rejet, comme si ils étaient écrasés par ceux qui ont le savoir. Vous voyez, le côté...
Mais à quoi le sentez-vous avait... Parce que ça, on l'entend beaucoup, Céline Pigalle, cette idée que on aurait un public rétif aux élites, quelles qu'elles soient, scientifiques, voilà, ou politiques. Ouais. Mais vous le mesurez comment à BFM Télé?
Par exemple, au succès d'un Didier Raoult, qui a dit tout le reste et son contraire, et qui notamment aussi a été beaucoup suivi sur deux registres. D'une part parce qu'il apportait une parole d'espoir, c'est-à-dire qu'envers et contre tout, on était d'accord pour entendre qu'il avait une solution. Et d'autre part parce qu'il rejetait un consensus, parce que par ailleurs, il opposait Marseille à Paris. Enfin, vous voyez, il y a tous ces leviers. Ce que je veux dire,
oui,
c'est que simplement...
Ça, ce sont les bons éléments, pourrait-on dire, pour un récit médiatique. On a un punk à cheveux longs blancs avec sa blouse de médecin. Oui. On a Marseille contre Paris. Tout ça, c'est aussi mis en scène par les médias parce que ça participe...
Oui, mais mon interrogation, à l'inverse, elle est pour conquérir ses publics. Lorsque les journalistes sont bien formés, lorsqu'ils peuvent apporter une parole sérieuse, crédible, comment est-ce qu'ensuite on fait en sorte que ça ne s'adresse pas qu'à un public qui est déjà conquis, qui est déjà à l'écoute, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce discours-là soit reçu par le plus grand nombre, sans les théories du complot. Dans le discours de Didier Raoult, il y avait aussi la logique des conflits d'intérêts, la logique des labos qui ne souhaitent pas un certain nombre de choses, vous voyez. Et tous ces arguments-là, les contrecarrer, ça n'est pas seulement, ou en tout cas, vous voyez, la logique par exemple du pur fact-checking ne suffit pas à aller chercher ce public-là.
Antoine Flahaut.
Je pense que je partage beaucoup ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut aussi l'étendre aux politiques. Je parle de la faiblesse de la culture scientifique.
Ah oui, ça.
C'est-à-dire qu'on...
C'est le moins qu'on puisse dire, mais de toutes les cultures de type très spécialisées, effectivement, la plupart du temps.
Oui, alors disons que les politiques français sont formés dans un moule qui est assez intéressant, qui est celui de l'ENA et de finalement en dehors de l'université. C'est une des rares élites au monde qui n'est pas formée par son université. Il y a très peu, je pense, de docteurs au sens non pas médical du terme, mais de titulaires d'un doctorat au sein de l'équipe gouvernementale et de son cabinet. C'est quelque chose que la France doit changer. Quand j'avais entendu qu'il y avait des velléités de changer l'ENA, j'avais l'espoir que ce soit dans un mouvement universitaire. Il se trouve que j'ai été le premier directeur de l'École des hautes études en santé publique en France, à Rennes, qui était jusqu'à ce que j'en prenne la direction, qui était l'École nationale de santé publique. Et puis la loi de Jean-François Mattei a changé le statut de cette école et l'a transformée, qui était donc une école d'administration pour fabriquer des directeurs d'hôpitaux en particulier, ou des médecins inspecteurs de santé publique, ou des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Cette école était une école d'administration et elle est passée dans le giron de l'enseignement supérieur. Elle est passée comme ça s'appelle un grand établissement au sens de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire avec toutes les prérogatives d'une université. On y a mis des unités de l'INSERM, du CNRS, de l'IRD, l'Institut de recherche et développement. Bref, on y a intégrer la recherche.
Le savoir, la connaissance et la recherche, c'est ce que vous voulez dire.
Et je pensais que ce serait un mouvement inéluctable qui allait toucher l'ENA, la magistrature et la formation de nos politiques. Il est extrêmement important aussi d'avoir des futurs directeurs d'hôpitaux qui savent ce que sont les domaines scientifiques. C'est eux qui vont acheter des séquenceurs pour faire le séquencer le génome. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le génome. Ils vont acheter des robots d'intelligence artificielle pour les interventions chirurgicales, il faut qu'ils comprennent. Donc, à tous les niveaux de la chaîne de l'administration française, qui va jusqu'au plus haut niveau politique, il y a un déficit majeur de culture scientifique. Il y a un peu un rejet de l'université. J'étais frappé de voir à quel point les syndicats des directeurs d'hôpitaux étaient contre l'université, contre la recherche, d'une façon dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes encore en France profondément ancrés de suspicion vis-à-vis de la science. Et comme je disais tout à l'heure, les médias n'en sont qu'un reflet, c'est-à-dire qu'ils portent ces suspicions au grand jour, et ces suspicions ne sont pas que des suspicions de gens qui n'ont pas de responsabilité, de formation ou de culture d'entreprise.
C'est un peu gentil de nous enlever ce fardeau, effectivement, d'être les seuls à porter justement cette suspicion dont on parle depuis le début de cette émission. Yves Siama.
Moi, je suis d'accord qu'il faut conquérir ces publics. C'est bien sûr la question, je veux dire, le public non, pas l'élite, lettrée, etc. Il faut conquérir ces publics, mais à quel prix ? Qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on s'interdit ? Il y a actuellement un courant dans les médias, en particulier les médias qui sont financés que par la publicité, qui est vraiment de rechercher les buzz et les clics au prix parfois de la mise en scène de pugilat, au prix parce que vous savez, il y a une étude de Science en 2018 qui montrait que les tweets faux circulaient plus vite, plus loin et toucher plus de monde que les tweets exacts. Et c'est normal parce que, en fait, ce qu'on cherche, c'est la nouveauté et l'extraordinaire.
Et le merveilleux.
Voilà.
Enfin, le merveilleux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quelque chose qui, d'un seul coup, nous surprend et que l'on veut transmettre à d'autres.
Mais le nouveau et l'extraordinaire est plus souvent faux. C'est ça le problème. Et du coup, en fait, en essayant de séduire et d'avoir ce buzz et ces clics, on est tenté de faire trop de place à de l'information qui est fausse, qui est inexacte. Et moi, je trouve
c'est amusant de voir le scientifique défendre les médias en disant les médias ne sont pas seuls responsables, et le journaliste dire les médias sont à la peine justement.
Non, mais je pense qu'il faut qu'on prenne notre part de responsabilité et les autres ont la leur. Mais je pense que le modèle publicitaire est un peu problématique dans cette situation et un peu pousse au crime.
Dans ce côté-là, nous sommes assez tranquilles à France Culture. Peut-être pas pour vous, Céline Pigalle.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être avancé par Yves Siama, justement ? C'est-à-dire cette nécessité de mettre en scène, de raconter, ce que je disais tout à l'heure, de faire un récit d'une certaine façon.
Mais honnêtement, autour de la crise du Covid, il y a eu des surgissements de personnages qui ensuite ont été contestés. Petit à petit, quand on comprend que tel ou tel n'avance que des choses erronées, il n'est plus invité. Les personnes que vous
avez... En revanche, vous avez raison, mais en revanche, on ne dit pas... Ouais. On a fait une erreur en l'invitant peut-être si, d'une certaine façon. C'est-à-dire on ne revient non. pas sur... On ne fait pas une sorte de fact-checking de ce qu'on a fait non, dans vrai. Le média en question.
C'est vrai, mais voilà, il y a une espèce d'élimination naturelle.
Si déjà ils n'étaient plus invités, ce serait bien.
Ouais. Et c'est le cas. Hein. Voilà, on s'est trouvé dans des situations où c'est vrai que vous entendez des choses, vous vous faites préciser et vous vous dites, là c'est pas sérieux, il faut qu'on arrête ça. Y compris d'ailleurs la logique du pur affrontement, elle a existé dans du débat, mais elle a plus existé sur quelle mesure mettre en œuvre face à ce Covid que sur le fond. Voilà, mais sur la
exemple,
question des traitements.
On a vu beaucoup sur les plateaux d'éditorialistes dialoguant entre eux, ouais. Les éditorialistes qui n'ont aucune formation scientifique, qui avaient
leur avis.
Mais
encore une fois, c'était plus sur la mise en œuvre de mesures pour faire face oui. que sur la maladie elle-même. Et honnêtement... on a vraiment essayé d'être au plus près, et les fameux journalistes dont on parle, qui se sont formés sur le tas, ils se sont mis à lire des revues, ils se sont mis à lire des articles scientifiques, comme ils ne le faisaient pas précédemment, ils sont vraiment entrés dans cette partie.
Ensuite, le travail qu'a fait chez nous, effectivement,
voilà.
Nicolas Martin,
vous savez,
Martin et son équipe avec les radiographies.
On verra exactement ce qu'est le bilan. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on est dans un monde très complexe, et on a quand même un peu ce rêve d'avoir des réponses simples. On voudrait avoir des réponses clés en main. Et donc, c'est exactement ce qui n'est pas possible dans cette histoire. Et donc, on travaille tout ça. Et c'est ça qui est vraiment complexe. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment, nous, on a eu beaucoup de retours, notamment sur tout ce qu'on a fait en matière de questions-réponses. Vous avez des interrogations, vous nous posez la question, et on essaye de vous dire ce qui permettait de se mettre au niveau des gens et pas d'avoir des discussions qui paraissaient éloignées de leurs considérations. Et voilà. Ça a plutôt fait du bien à notre image, en réalité. Mais de là à dire que tout est résolu, il y a encore du chemin.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Antoine Flahaut, d'avoir été au téléphone avec nous. Depuis Genève, vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut de Santé Globale à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève. On peut suivre en particulier votre manière à vous de communiquer en communiquant directement sur les réseaux sociaux et très régulièrement sur Twitter, où on suit également Yves Siama. Merci d'être venu, journaliste scientifique indépendant, spécialiste spécialisé en environnement et sciences du vivant et président de l'Association des journalistes scientifiques français. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et d'avoir fait participer aussi la semaine dernière, je crois, aux Assises du journalisme qui traitaient de ces questions-là à Tours, autour de ces questions. Et puis, merci à vous, Céline Pigalle, d'être venue défendre votre maison BFM Télé, la façon dont vous faites de merci la vous. Télévision. Vous êtes directrice de la rédaction. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bail, Hugo Boursier et Iman Gilles. À la technique avec nous ce soir, Jean-Guilain Mège. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, rentrée universitaire, comment s'en sortir, en partenariat avec le journal étudiant Le Drench. On parlera d'ailleurs encore de Covid et en particulier de la manière dont on a réagi dans les universités à cette épidémie à la rentrée. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles. Ce sera ce soir avec le metteur en scène et dramaturge Pascal Rambert. Vous écoutez France Culture, il est très bientôt 19h. Et à 19h, les titres de l'actualité. J'espère que vous êtes là, j'ai 10 secondes d'avance, Laura Dulieu.
Oui, bonsoir Emmanuel,
bonsoir
à toutes et à tous.